Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Les GG, cette semaine, ce qui a attiré notre attention, c'est la décision de Thibaut Flamand, joueur du 15 de France, de renoncer au début du tournoi des 6 nations. Avec sa femme, ils vont avoir recours à la PMA, donc la procréation médicalement assistée, dans un timing en fait qui entre en conflit avec la rencontre d'ouverture de la compétition entre la France et l'Irlande. Il en a donc informé Fabien Galthié, le joueur Thibaut Flamand, qui a accepté sa décision. Il préfère donc privilégier dans cette séquence leur projet de famille plutôt que de partir absolument sur France-Irlande et mettre en danger ce projet-là. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça en fait, parce que c'est quand même assez rare que ça arrive sur la place publique comme ça, qu'on en parle. Comment on gère la vie privée quand on est sportif de haut niveau? Il y a forcément des moments où des compétitions ou des matchs entrent en conflit avec des moments importants de la vie de tous les jours, hein. Je sais pas, vous êtes tous parents ici. Comment on gère ça? On n'en parle pas si souvent. Thibaut Flamand nous permet peut-être de le faire. Jérôme, sur la façon de gérer la vie privée quand on est sportif de haut niveau. Non, mais c'est vrai.
On doit te dire là où.
On est dans l'intime, tu le sais.
On peut balancer les dossiers.
C'est important. Moi, je comprends la décision du joueur. Et moi, pour revenir sur mon cas et quand j'étais coursier, les naissances de mes filles, il était impensable de ne pas y assister. J'ai une anecdote que je t'ai racontée hier. C'est moi, mon ex-épouse et attend la première, Lou. On est en plein Paris-Nice. Et je pense que la nature est bien faite, puisque chaque Paris-Nice, à Paris-Nice, j'avais fait toutes les étapes et j'avais coché l'aéroport le plus proche. J'avais dit à Jean-René, tu me mets à Paris-Nice, pas de problème. À l'époque, déjà, on courait après les points.
Jean-René Berdedeau, ton manager.
J'ai dit, l'équipe. Ok, pas de souci, mais par contre, je te préviens, si Relia déclenche, je me tire, j'y vais. Donc, j'avais fait tout le parcours avec l'aéroport le plus proche et j'avais donné mon téléphone portable au mécano. J'avais zéro confiance en Jean-René, au mécano, pour dire ta femme a accouché et tu rentres. Et du coup, la nature est bien faite, parce qu'Aurélie a tenu toute la semaine et Lou est née 24 heures après l'arrivée de Paris-Nice. Et pour le deuxième, et ben écoute, on a calculé, on a fait en sorte que Zoé, la deuxième, soit née le 29 octobre pour être hors saison et pour pas perturber quelque part la saison. On a des exemples.
Et comment tu as couru Paris-Nice, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Ah oui, Wout Van Aert est parti du Tour de France
du Tour,
pour assister à la naissance de son enfant.
Tu cours avec la boule au ventre en te disant important c'est de pas louper. C'est pas l'étape, c'est de pas louper la naissance.
C'est ce qu'a pas voulu faire Flamand, d'une certaine façon, pas tout à fait pareil. Mais
après, c'est aussi est-ce que le manager l'accepte ou non, Marc. Est-ce qu'avant un départ de tour, si un de tes coureurs dit il est possible que je bâche parce que mon épouse va accoucher, est-ce que tu le sélectionnes quand même pour le Tour de
déjà,
France?
Tout dépend quand la date de naissance est prévue. Si c'est au bout de 3 jours de course sur un Tour de France, par exemple, la question se pose même pas et le coureur reste à la maison. Si c'est dans les 3-4 derniers jours d'un Tour de France et que c'est un sprinter, par exemple, que tu as dans ton équipe, la situation est différente. Il y a une évolution dans le temps. Il était une époque où, dans les années 80-90, pour la naissance d'un enfant, tu ne rentrais pas. Déjà parce qu'il n'y avait pas les moyens de transport qu'il y a aujourd'hui avec les avions, il y avait beaucoup moins de correspondance qu'aujourd'hui, puis c'était pas dans l'air du temps que de rentrer à la maison pour une naissance. Donc tu terminais l'épreuve sur laquelle tu étais et tu rentrais ensuite.
Et après, dans les années 90, dans la famille,
toi tu as été parent après ta carrière.
J'ai été parent après ma carrière, mais j'ai quand même connu toutes ces époques à l'époque où j'étais coureur et ensuite quand j'ai créé l'équipe. Mais il y a eu une évolution des mœurs et des habitudes au fil du temps. Aujourd'hui, quand un coureur va être papa pendant des compétitions, on anticipe le programme de course ou d'entraînement pour le coureur et on essaie de s'adapter le mieux possible à la situation pour que ce soit le plus facile et le moins contraignant possible pour le coureur. Donc on trouve toujours des moyens de fonctionner. Donc sur les naissances aujourd'hui, la situation est, j'ai envie de dire, régulée dans toutes les équipes et tout le monde réagit de la même façon. Aujourd'hui, il est dans les mœurs de dire, quand on a une naissance pour un coureur, on le laisse rentrer à la maison ou on organise son programme en fonction de la naissance.
Et moi, j'ai toujours eu ça en tête en me disant, je ne peux pas louper la naissance. On voulait plusieurs enfants et je me dis, je ne peux pas en louper une et pas l'autre. Enfin, ça aurait été terrible pour moi de dire, Azoué ou Alou,
la chouchou.
Ah bah, pour toi, j'étais pas là.
J'étais pas là parce que j'avais signé chez Quickstep et quand même, c'était quand même une équipe.
Non, c'était juste. Par contre, et tu fais bien de le signaler, Zoé a été conçue l'année où j'ai signé chez Quickstep. Bah, je me voyais pas louper les courses parce que Zoé est arrivé pour ma première année de contrat dans cette équipe qui était pour moi le Graal. Donc on a fait en sorte
qu'elle laisse avant la saison.
Tu imagines la situation, tu as porté le maillot à pois rouge de meilleur grimpeur sur les routes du Tour. Si à ce moment-là tu avais dû faire le choix parce que ton épouse a couché avec un maillot sur le dos.
À l'époque, quand bon, j'avais ce maillot-là, j'étais chez Quickstep et le Quickstep avait besoin de visibilité. Est-ce que c'était pas la grande Quickstep? On était entre deux. Je pense pas que le père Lefebvre me serait, il serait tombé dessus. Je serais rentré quand même, mais il aurait pas aimé la blague, je pense.
Tiens, important, Baptiste sur WhatsApp au 0612 424 424. On est dans le vestiaire sur comment gérer la vie privée quand on est sportif de haut niveau. Baptiste nous rappelle, souvenez-vous de Vincent Clerc qui était sorti en plein match avec le Stade Toulousain.
Bien sûr.
Il avait été autorisé par son coach Guidoves, qui était
son beau-père.
Évidemment, c'était un peu décisif, quoi. Aussi pour l'entraîneur, personnellement. Bennett, toi sur ton expérience.
Là, on parle, bon, Thibaut Flament, c'est tout à fait normal. Il y a un télescopage de calendrier, il y a un acte médical qui doit être fait.
Parce que c'est très précis, hein, il faut rappeler. Exactement. Il y a un jour de ponction, ça se fait à un moment précis dans la PMA.
Après,
donc
on parle des naissances ou malheureusement
des décès.
Est-ce qu'on doit assister aux funérailles, des choses comme ça. Là, c'est des cas entre guillemets extrêmes, mais pour parler de la vie privée qui est adaptée, bah oui, surtout dans les sports itinérants, le cyclisme, vous n'êtes pas souvent à la maison. Nous, on n'est pas souvent à la maison. Oui, la vie privée, elle est complètement adaptée en fonction de ta carrière, de savoir quand est-ce que tu pars en vacances. Tu vois, au mois d'octobre, mois de novembre, c'est la saison creuse. Nous aussi, mois de novembre, mois de décembre. Quand tu as une femme ou une épouse qui a une vraie activité, un vrai travail et qui n'est pas là que sur le circuit pour te suivre, tu adaptes. Et elle doit s'adapter aussi aux contraintes du calendrier, forcément. Les dates de mariage.
Nous, les mariages, les coureurs cyclistes se marient l'hiver. Hein.
Ouais. Alors,
traditionnellement.
Mais nous, les mariages, bien sûr. Moi, il y en a où c'est quand tu sais que tu vas avoir pas mal de tennisman dans ta liste des invités. Bon, bah oui, tu prends le calendrier et tu regardes. Est-ce que tu fais ça en septembre à Wimbledon?
Si t'as un petit budget, tu fais ça en Roland-Garros, comme ça au moins t'as pas.
Après Wimbledon au mois de juillet, avant qu'ils partent sur la tournée américaine. Voilà, c'est des choses réelles qui existent et forcément on est vraiment.
Non, mais tu imposes en fait, c'est ce qui est assez intéressant.
C'est très dur.
Tu disais, tu imposes ta carrière à tes proches,
bien sûr.
Non, mais Marc,
évidemment.
Il faut avoir une compagne ou un compagnon pour. D'autres personnes, effectivement, qui soient prêtes à accepter tout ça. C'est déterminant.
Et c'est pas toujours le cas. Hein.
C'est pas toujours simple. Hein.
Ouais.
Pas toujours simple, bien sûr. Il y a des. Enfin, moi, on en a souvent des exemples. Vous avez des coureurs qui s'installent dans un rythme de vie lié à leur activité sportive, à leur activité de coureur. La femme s'adapte et s'installe par rapport à ces données-là. Et tout est chamboulé le jour où le sportif met un terme à sa carrière. Il y a un chamboulement.
Moi, je peux t'en parler. Dans ma génération, le taux de divorce, il est très, très élevé. Hein.
Ben oui.
Non, mais c'est hyper important d'en parler parce que on n'en parle pas assez. Par exemple, là, il y a quelques jours, quand Liam Rosenior, l'entraîneur de Strasbourg, a dit je rentre aussi à Londres parce que ma famille est restée là-bas.
Mais
c'est vrai.
Évidemment.
Même certains joueurs, regardez Messi qui disait avec ma famille, c'est plus tout à fait la même chose à Paris comme à Barcelone. Il n'y a plus les amis et tout ça. La vie privée.
Ben c'est compliqué.
Comme on n'expose pas sûr. Quand on est un sportif de niveau publiquement,
la famille est restée.
Mais une importance qu'on ne mesure pas quand on est journaliste ou suiveur.
Mais c'est compliqué.
On a le même genre de problème. Moi, j'ai renoncé à des Jeux Olympiques. Je devais partir à des Jeux à Vancouver. J'en rêvais. Mais ma petite fille allait naître. J'ai renoncé. On a le même genre de
problème.
Pour les personnes qui nous écoutent et qui ont des travails très importants, ceux qui sont infirmiers, ceux qui sont routiers. Ouais. Ceux qui sont taxis, qui travaillent la nuit à l'hôpital, il faut s'adapter. Donc
toute activité professionnelle, on va dire, quel que soit le domaine,
bien sûr.
Qui ne comporte pas des horaires traditionnel, du lundi au vendredi, demande une attention de ta vie privée. Toi, Christophe, ça fait des années que tu fais le week-end. Forcément, ta vie privée, bah, c'est pas pareil. Quand t'es dans un couple, le week-end, ton autre moitié, elle travaille la semaine. Bah, le week-end, c'est le moment où elle espère partager du moment avec toi, etc. Mais toi, c'est ton travail. C'est une adaptation.
Là, les garçons, on parle de l'épouse et puis de la relation du couple et des enfants à la maison. Mais ce qu'il y a quand même en plus quand tu es sportif, c'est la gestion des soucis du quotidien de famille, que ce soit les maladies, les naissances, les problèmes, en même temps que gérer du sport de haut niveau, donc il faut avoir
vos
la
épouses,
tête à 200%.
Vos épouses, les épouses de sportifs sont vraiment vos bras droits.
Elles peuvent aussi nous poser beaucoup, beaucoup de soucis. Et là, il faut le gérer aussi. Un garçon qui est en pleine bourre et qu'il sent que sa femme, dès qu'il n'est pas là, elle part en cacahuète, c'est dur d'être concentré sur la course.
Non, mais il y a plein de choses comme ça. Moi, j'ai fait tout ça.
Mais bien sûr,
sur les divorces.
Non, mais moi, je vais te dire, on est là dans ce vestiaire. Moi, j'ai fait un choix d'arrêter mon dernier Giro parce que c'était chaud cacao à la maison. Je suis rentré.
Ça n'a pas
sauvé mon couple, mais je suis rentré pour ça.
Non, mais c'est important.
Il y a des choix à faire.
C'est important ce que dit Jérôme. Par exemple, nous, dans le tennis, on a des tournées dans l'année, 3-4 fois, où ça dure 4-5 semaines de suite.
Par exemple, tu pars en Australie en janvier, fin décembre.
Aujourd'hui, la plupart des joueurs qui sont en couple, ou des joueuses qui sont en couple, il y en a beaucoup, beaucoup qui voyagent maintenant, ensemble. Vraiment. Mais si tu as une épouse ou un époux qui a un vrai métier, il peut pas poser 4 semaines de vacances début janvier.
Mon fils Gitolina, c'est pratique au moins.
Ben voilà. Donc quand tu pars 4-5 semaines de suite sans rentrer à la maison, au bout d'un moment,
tes enfants te reconnaissent plus.
Non, c'est pas ça, mais au bout d'un moment dans ton couple, il y a une distance qui s'installe parce que toi t'es hôtel.
T'as chacun son quotidien.
Ouais. Toi, ton quotidien, t'es hôtel, cours d'entraînement, match, massage, récup, resto.
Ah, mais c'est sûr que t'es dissocié de la vie réelle.
Exactement. Et pendant que ta compagne ou ton compagnon, elle, c'est un peu gérer le quotidien, il y a eu tel truc. Et en fait, au fur et à mesure,
Toi, t'es dans une vie paranormale, en fait.
Exactement. Mmh. Et donc, quand tu vis avec quelqu'un qui a une vie normale, quand tu parles longtemps, il y a une distance qui se crée. Et quand tu rentres, il faut quelques jours pour que se réaligner. Et c'est différent.
L'effet post Tour de France est terrible.
Bien sûr. Nous, on l'avait en tous les jours.
Tu rentres du tour, t'as envie de rester à la maison et de ne plus bouger. Et ta femme et ta famille ont envie que tu bouges et t'ailles en vacances. C'est un peu compliqué de reprendre la voiture.
Tu vis en décalage par rapport au monde réel.
On est en décalage par rapport au monde réel.
Mais c'est pareil dans notre quotidien de cycliste. Quand tu es à l'entraînement tout l'hiver et que le peu de temps que tu as, c'est souvent l'hiver, t'es à la maison. Mais quand t'as fait 5 heures de vélo, faut expliquer à madame qu'après 5 heures, c'est pas fini. Faut récupérer, faut rester au chaud, faut pas attraper froid. Ouais. Elle a juste envie de faire
la fiesta, aller au dancing.
Faut que la personne qui vit avec toi comprenne ça.
C'est la décompression après des gros événements. Et même pour le coup, toi, Marc, même en tant que manager, la pression au quotidien là, dans la gestion, quand est-ce que t'arrives à avoir des moments de décompression totale? Ils sont peu nombreux, j'imagine.
Ils sont peu nombreux parce que les événements et les compétitions s'enchaînent les unes derrière les autres.
Donc finalement, on n'est pas trop disponible aussi.
La disponibilité,
c'est ça qui est un sujet
important. Il y a la disponibilité physique et la disponibilité mentale. Et c'est pas forcément toujours simple. Quand, par exemple, quand on termine un grand tour, qu'on rentre à la maison, le contraste, c'est que pendant 3 semaines de grand tour, on est dans le bruit, on est dans la foule, on est dans le mouvement permanent et on n'est jamais seul quelque part, on est toujours en mouvement.
Il y a d'attention médiatique.
Et le lendemain du Tour de France, tu rentres à la maison, d'abord tu t'arrêtes au feu rouge, t'as plus le bruit de Radio Tour, t'as le silence, tu arrives à la maison, t'es dans le silence. Et donc il faut se réhabituer, se réacclimater à la vie normale. Quand t'es coureur, tu termines un grand tour, le premier truc qui te fait sentir la différence, c'est quand tu enfiles des vêtements de ville. Pendant 3 semaines de Tour de France, mais en survêtement ou en tenue de coureur.
Ah ben c'est fini ça. Maintenant, tous les sportifs sont habillés. Non mais
c'est
à la mode.
C'est intéressant. Tu es presque deux personnes en fait.
Bien sûr.
Tu es le sportif et d'un coup tu redeviens Marc.
Oui. Tu n'es pas Marc Madiot. Tu rentres à la maison, tu retrouves ta famille, tes parents, ta femme, tes
enfants. L'anonymat.
et bien que sûr. Tu retrouves une et normalité.
Ça ne te fait pas la même chose, Georges, quand tu rentres du tour?
Nous, dans le tennis...
C'est sûr que les, non, mais la décompression pour tout le monde est
nous, dans le tennis, ce ressenti que vient de décrire Marc, nous, on pouvait l'avoir à l'époque de la vraie Coupe Davis, quand on jouait une grosse rencontre. On était 8-10 jours ensemble, en vase clos. On n'a pas l'habitude de ça, parce qu'on est sur le circuit, on est... Et on joue tout un week-end devant un stade monstrueux, avec une attention médiatique, avec une ambiance particulière, et qui génère des émotions qui sont décuplées. Bah, le lendemain, le lundi matin ou le mardi matin, quand t'es tout seul et que c'est toi qui te fais ton bol de céréales, alors que pendant 8 jours, on t'a tout fait, on t'a tout fait, t'as été soigné au plus oignon. Exactement. ce retour-là, il y a un petit moment où de décompression, quoi.
Ouais. Et c'est pas caché puisque ça a été écrit dans la presse. J'ai fait un moment de dépression post-carrière et j'ai, en consultant le spécialiste, clairement, il me dit, il faut que vous soigniez votre problème d'attitude de rockstar. C'est ça, en fait. On est quelqu'un d'autre. Georges, je finis. C'est le phénomène d'être non performant quand t'es à la maison. Parce que, en plus de rentrer à la maison,
tu sais plus où sont les assiettes.
Si t'es pas bon. Et si t'es pas bon sur le vélo, il y a tout qui t'énerve et là tu deviens imbuvable.
Non, mais c'est tu sais plus où sont les assiettes, mais ma femme, souvent.
T'es chez elle, t'es plus chez toi.
On rentre du tour. On arrive à la maison, on a tendance à s'installer dans le canapé.
Attends.
Pour regarder le sport, te dit, t'es pas à l'hôtel ici.
Bah oui, normal.
Et là, tu mets la table. Ok, je mets la table. Et t'arrives dans les cuisines et tu commences à dire, au fait, est-ce qu'on ouvre les assiettes?
Non, mais c'est intéressant, ça va dans le sens que me dit Christophe sur WhatsApp au 06 12 84 424. Il dit, sans vouloir être péjoratif, en fin de compte, en vous écoutant, vous êtes un peu hors sol durant votre carrière. Ça doit être difficile de revenir à quelque chose. Jérôme me dit, bonjour, nous les agriculteurs, bonjour. Il n'y a absolument pas de vie de famille. J'ai été sportif de bon niveau, je trouvais plus facile quand je me consacrais au sport, mais c'est vrai que dans la vie de l'agriculture, c'est aussi un peu comme ça, il faut faire des sacrifices.
Donc, Chris, tu rentres à la maison tous les soirs, même si tu bosses toute la journée comme un malade.
La disponibilité mentale, il y a ça aussi.
Là aussi, la parole des épouses ou des enfants est plus présente aujourd'hui qu'elle ne l'a été. Moi, je me souviens des déclarations de Madame Vingegaard, par exemple, l'année dernière, qui disait, ouais, l'équipe le fait trop travailler. Et je voudrais voir comment on vit ça quand on est dans une équipe et que la femme d'un de ses coéquipiers se mêle quelque part de la vie de l'équipe et comment vous le vivez, quoi.
Ah, mais bien sûr que
c'est une question d'équilibre, en fait, la présence familiale au sein d'une structure sportive. C'est une question d'équilibre. Que les familles
sont bienvenues à l'hôtel,
elles sont
au Tour
les
de
bienvenues,
France,
mais dans le respect d'un cadre.
À certains moments, ouais.
Quel est le cadre?
Le cadre, c'est on passe visiter le mari ou le papa.
En journée de repos?
Journée de repos, essentiellement. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de récupération et un temps de vie de famille retrouvée pendant quelques heures ou quelques minutes sur une journée de repos. Mais il faut pas que ça devienne, un boulet pour le sportif et pour le reste de l'équipe. Parce qu'il y a quand même deux aspects dans tout ça. Il y a le côté du sportif individuellement au sein d'une équipe et il y a aussi les répercussions de la présence des autres familles sur la vie de l'équipe en général. Donc il faut trouver des bons équilibres. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème particulier parce que chacun sait jusqu'où, là où il peut aller.
Mais c'est important d'avoir la bulle de performance.
Je pense qu'il faut conserver...
Au petit déjeuner, tout le monde ne soit pas là. Groupe. Et après, on voit l'équipe de France à la Coupe du Monde, par exemple. Hein, ils sont dans un bunker, les familles viennent de temps en temps. C'est le cas dans tous les sports.
Après, c'est aussi des moments très rafraîchissants. Moi, je me souviens, jeune néo-pro, j'avais pas d'enfant. Didier Rousse, à l'époque, avec qui je partageais la chambre, faisait venir sa femme et ses enfants à l'époque et de l'époque. Ça a été pour moi aussi très sympa de passer du moment. Tu sors de la course, t'as les familles, ça te fait du bien. Aujourd'hui, le cadre, il est très important parce que ce qu'il faut pas oublier de dire, parce qu'on a quand même beaucoup de choses et pas que très positives sur les gens qui nous accompagnent pendant notre carrière. Moi, je reste persuadé que si j'ai fait la carrière que j'ai, c'est que j'ai été accompagné par cette femme-là pendant ma carrière. On peut pas réussir sans être à deux et quelqu'un qui tient la route à la maison, c'est pas possible. Donc il faut les remercier, leur tirer un coup de chapeau, mais c'est simple, c'est un vrai métier d'être femme de sportif. Je pense que c'est un vrai métier, quasiment une vraie vocation.
Vous êtes dit après votre carrière, j'ai raté des choses, j'aurais peut-être dû plus privilégier ma vie privée, Bennett?
Non. Honnêtement, non, parce que je pense.
Toi, t'as été papa pendant ta carrière?
Ouais, mais j'ai été blessé à ce moment-là.
Donc, t'étais là, en fait.
Donc, au moment, l'année où mon épouse a été enceinte et où elle a accouché, il n'y avait aucun problème, j'étais là. J'ai même été là après pendant 5-6 mois. Les premiers... Moi, ce qui m'a fait drôle, c'est le 26 décembre, il est né au mois de juillet. J'ai été là tout le temps et il avait donc pratiquement 6 mois. Et là, quand j'ai fermé la porte de chez moi et que je repartais sur le circuit en Australie à l'autre bout du monde pour 4 semaines, là, je faisais pas le malin quand j'ai pris le taxi et je pourrais aller à Roissy parce que là, je me suis dit, putain, je le laisse.
Et en plus, il faut rappeler que derrière, t'as gagné l'Open d'Australie, hein, t'as gagné dans le Grand Chelem, du coup, t'es resté très longtemps sur place.
Les responsabilités qui
Seigneur Chavez.
Les responsabilités qui incombent.
Non, mais bien sûr.
Non, mais c'est sûr. Ouais.
Moi, je me souviens que le jour où la grande est née, ta vision de ton sport échange. J'ai toujours dit, après, moi, j'ai commencé à bosser. C'est devenu mon métier le jour où j'ai été papa. Parce que t'as des responsabilités que t'as pas avant. Ça change dans ta tête.
Ah, mais ça, pour le coup, c'est très personnel.
Tu l'abordes.
Ouais, c'est très personnel.
Moi, je l'ai abordé de façon très différente.
Ma carrière, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant. Donc, j'ai vécu différemment.
Ouais.
Mais attends, c'était un choix aussi? Tu vas être concentré sur ta carrière?
Sûrement un peu. Et j'avais mon mode de fonctionnement personnel. Donc, de ne pas être marié pendant ma carrière m'a plutôt servi.
Ah bah oui, parce que sinon quand tu sortais le 1er janvier
surtout pour aller faire ta sortie sous la neige, il y a personne qui pouvait se supporter.
Allez, on ferme la porte du vestiaire. Comment gérer la vie privée quand on est sportif de haut niveau, c'est notre débat après la décision magnifique, j'ai envie de le dire, voilà, de Thibaut Flamand de se consacrer à son projet de famille avec sa femme, et donc il va rater France-Irlande.